Université Paris 1, Panthéon Sorbonne.
Il faut imaginer quand même, côté Pressmisseur, c'est que donc on est une compagnie française qui a été rachetée récemment il y a un an, quasiment jour pour jour, par des Japonais. Et c'est vrai que les questions de sécurité font partie depuis longtemps de nos questions primordiales, puisque c'est vrai que dès lors que vous êtes un site transactionnel, vous êtes naturellement exposé à différents risques, naturellement les risques d'attaque informatique, les risques de piratage de la base de données. Alors bien évidemment, peut-être certains veulent venir récupérer des données bancaires, bon, on les stocke pas chez nous, donc ils pourront toujours essayer, on les aura pas, mais ils auront quand même derrière une volonté d'attaque, et c'est vrai que régulièrement, on a des attaques qui peuvent mettre des attaques en déni de service. On a eu ça à l'époque de la part des autorités chinoises au moment de c'était les Jeux Olympiques à Pékin, en fait. Hein, on avait eu quelques attaques comme ça de saturation de serveurs qui venaient de Chine, sans doute en protestation par rapport à l'attitude de la France vis-à-vis de ces Jeux Olympiques. Mais c'est vrai qu'au-delà de ces problématiques, nous, on a une autre problématique, c'est lié à notre activité même, qui est quand même d'être une plateforme de commerce électronique, c'est-à-dire de permettre à n'importe qui, un acheteur et un vendeur, de venir sur cette plateforme, et notamment à permettre à tout internaute de mettre en vente n'importe quel produit. Et c'est vrai qu'on va se retrouver comme nos homologues de, par exemple, des plateformes de vidéos comme Dailymotion, YouTube, des plateformes de blog, hein, qui peuvent être Blogueur, Overblog, etc. On va se retrouver, nous, dans des situations un peu plus complexes, qui est de dire qu'on doit également gérer, en fait, toute la problématique contenu, et notamment le fait que des gens viennent publier des contenus illicites, ou en tout cas pour nous, avoir des activités illicites. Et c'est vrai qu'on se retrouve souvent, nous, dans des situations où on n'est pas en quelque sorte au service de la lutte contre la cyberdélinquance, hein, c'est ce qu'on mettait dans le titre de la table ronde, mais on est plutôt aujourd'hui un des acteurs de la lutte contre la délinquance, puisque sur certains types de criminalité, on se rend compte que les victimes, qui peuvent être par exemple les ayants droit, qui peuvent être des associations, nous demandent à nous d'agir proactivement afin de faire en sorte que ces activités illicites n'apparaissent pas à la vue de tous. Ce qui pose un autre souci, notamment en termes d'infractions pénales, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans des situations où finalement on empêche les délinquants de procéder à leurs activités, ce qui est positif côté entreprise, ce qui est positif côté potentielle victime, ce qui peut l'être moins côté autorité de police, de gendarmerie, autorité judiciaire, puisque finalement on empêche un délinquant d'agir, mais finalement on l'incite d'une certaine manière à aller voir ailleurs et à poursuivre ses activités ailleurs. Et donc c'est vrai que quelquefois on peut avoir cet effet rotor, et c'est vrai que nous on a aussi une autre démarche en la matière, qui est de dire que quelquefois quand on voit un délinquant qui nous paraît plutôt intéressant pour les autorités, on va pas dire qu'on le laisse agir, mais du moins on le met sous une bonne surveillance, on contacte les autorités compétentes, et effectivement derrière il peut y avoir des opérations, notamment le flagrant délit, etc. En matière de cybercriminalité, il y a un des points sur lequel on intervient beaucoup, parce que c'est quelque chose qui est assez fort, et je pense qu'il illustre particulièrement l'idée qui est aussi derrière le fil rouge, qui était celui de la concertation, hein, c'est de savoir comment on peut lutter efficacement contre une cyberdélinquance. Et un des exemples que moi je prends souvent, c'est la contrefaçon, parce que c'est un des sujets qui est assez frappant. Et effectivement, je ne vais sans doute pas vous parler de botnet, je pourrais vous parler de la vente de fausses bottes sur le net, ça vous changera un peu. Hein. Voilà. Donc je vais passer sur les chiffres pour aller très vite, hein. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on est un des gros acteurs. L'un des éléments qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a environ 350 000 nouveaux produits qui sont mis en vente chaque jour uniquement sur la plateforme française. Donc en fait on a aussi un défi en termes de volumétrie et de pouvoir contrôler cette volumétrie. Alors c'est vrai que nous, a priori sur les questions de contrefaçon, on a un problème qui est de dire ben voilà, on a un gentil acheteur et un méchant vendeur. Il faut savoir que par exemple on est aussi exposé à un autre risque, qui est celui de la fraude à la carte bancaire et des réseaux organisés de criminalité de ce type là, où effectivement là, dans ce cas là on a un méchant qui est l'acheteur et un gentil qui est le vendeur. Là où ça devient encore plus complexe, c'est quand vous avez quelqu'un qui veut acheter avec une carte bleue usurpée de la contrefaçon. C'est arrivé, hein, on a eu quand même un délinquant qui avait acheté de la contrefaçon chez nous, qui a été condamné au pénal pour utilisation frauduleuse d'une carte bancaire, mais également pour détention de contrefaçon. Donc c'est un peu en gros le double effet qui se coule, qui peut être rigolo de temps en temps. On demande beaucoup aujourd'hui aux acteurs de l'internet, et c'est vrai que classiquement le discours qu'on a des acteurs d'internet, c'est qu'on ne peut rien faire, et c'est vrai que c'est une approche souvent classique. Aujourd'hui, on se rend compte une chose, c'est que nous, on a une possibilité d'agir. Pourquoi ? Parce que même si on n'a pas le produit entre les mains, même si on ne voit pas les produits, même si on ne sait pas qui réellement vend, on a mis en place un certain nombre d'outils techniques. On les met également à disposition, notamment de certains ayants droit. On commence à faire des tests également pour le mettre à disposition de certaines autorités qui vont leur permettre finalement de scanner le site et voir un petit peu mieux des choses que finalement un œil normal ne peut pas voir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'informations que nous, on possède sur nos utilisateurs qui ne sont pas visibles. Par exemple, savoir combien de comptes a un utilisateur déterminé à travers d'une adresse IP, qui se connecte sur cette adresse IP, sur l'outil PriceMinister pour mettre en vente des produits, etc. Quels sont les comptes qui sont liés notamment au regard des données bancaires, etc. etc. Donc tous ces outils qui ne sont pas visibles à l'œil nu, et c'est normal, nous on les utilise. Et c'est vrai qu'en matière de contrefaçon, on a un peu cette logique-là également, et ce qui fait qu'on se focus notamment sur le vendeur. Aujourd'hui, comment ça marche en matière de contrefaçon ? On va analyser le profil de nos utilisateurs. Si on voit des profils suspects, profil vendeur suspect, c'est un vendeur qui a de nombreux produits, qui va proposer beaucoup de choses, on va le détecter, on va lui demander des explications, et tant qu'il n'aura pas apporté la preuve qu'il met en vente des vrais produits, son compte sera suspendu. Et après, on a une deuxième étape qui est effectivement l'analyse des contenus, où là, avec des mots-clés tout simples, on va aller rechercher si on peut trouver des faux produits, des fausses annonces, et donc avoir un deuxième niveau de contrôle avant la publication. Qu'est-ce qui est intéressant, notamment en matière de cyberdélinquance et de coopération avec les autorités ? C'est bien évidemment pas forcément la personne qui m'en vante un produit. Ce qui peut être intéressant dans une personne qui m'en vante un produit, c'est quand on veut tracer... le recel d'objets volés, quand on veut tracer la vente de certains produits dangereux pour la santé. On a pu avoir ça à une époque avec les canettes de Red Bull. À l'inverse, l'analyse sur le profil est très intéressante, notamment pour les autorités douanières, quand ils veulent remonter finalement à des réseaux. Et c'est là où on peut aussi intervenir, c'est-à-dire que nous, en détectant des profils, on va donner et permettre par exemple aux autorités douanières de trouver ce qu'on peut appeler des bons clients, du moins eux ce qu'ils appellent des bons clients, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir finalement analyser le comportement et remonter, et notamment au travers des autres canaux qu'ils peuvent utiliser sur Internet, par exemple les autres plateformes de commerce électronique, dont nos concurrents, mais également des sites qu'ils vont créer pour l'occasion, les systèmes bancaires au travers de PayPal, etc. Alors comment nous ça marche au niveau de l'analyse ? Véritablement une analyse au niveau du profil du vendeur, comme je vous disais, s'il y a une détection, le compte sera suspendu et on demandera à l'utilisateur des informations. Et s'il n'y a pas de détection, ben finalement, l'analyse passera. Alors pour vous donner des exemples, hein, quand on parle de détection de contrefaçon, on ne parle pas des faux sacs Vuitton. Aujourd'hui, le luxe représente vraiment une toute petite part. Aujourd'hui, les principales victimes de contrefaçon, ce sont les produits high-tech. C'est Apple, hein, c'est les iPads, ce sont les iPhones. C'est également les logiciels avec une marque, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Microsoft. Il paraît que c'est un petit éditeur, une petite PME française. On a également des objets comme des cartes mémoire, Sony, on a des paires de chaussures, etc. C'est-à-dire que ce sont des objets de la vie courante. Et ce sont des objets qui, une fois entre les mains d'un consommateur, le consommateur peut très difficilement détecter qu'il s'agit de faux. L'intérêt aussi de détecter tout ça, c'est que derrière, bien évidemment, c'est aussi une grande criminalité. Hein. Ce ne sont pas des petites personnes qui, dans leur garage, vont fabriquer de tels produits. On est face véritablement à une criminalité industrialisée et qui effectivement nécessite là une vraie coopération à tous les niveaux. On a effectivement aussi notre analyse au travers des contenus. Et par exemple, ça, c'est comment on peut détecter ce type-là de produit qui est une contrefaçon, en fait, de ce qu'on appelle du design, donc du dessin et modèle. C'est par exemple en cherchant un mot-clé comme shuffle dans les annonces, en essayant de détecter une couleur, en essayant de trouver différents critères qui vont permettre de déterminer. On a aussi le fameux hic, qui est une belle contrefaçon de HTC. Et effectivement, ça fait partie de certains éléments qu'aujourd'hui on cherche à détecter. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, hein, uniquement sur la plateforme française, on bloque entre 1600 et 2000 comptes par an, qui sont principalement des comptes d'utilisateurs français. Essayez de rapporter ça par rapport au nombre d'utilisateurs d'Internet en France. Vous verrez que le ratio est quand même non négligeable. Et effectivement, sur les questions de coopération, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse, Jean-Christophe en a beaucoup parlé, notamment dans le cadre du Cyber Crime Center, la volonté d'avoir une vraie association multi-acteurs. Au travers de Signal Spam, on a une association multi des différents acteurs, et c'est ce qui est très important. Aujourd'hui, nous, on a une minute. Parfait. Aujourd'hui, nous aussi, on a une démarche véritablement proactive de coopération. Comment ça marche ? C'est une coopération avec les ayants droit, c'est-à-dire les ayants droit attendent de nous une chose, c'est qu'on élimine et qu'on masque la contrefaçon le plus rapidement possible. Et donc effectivement, ils viennent, ils forment nos équipes, ils partagent de l'information, on partage des informations avec eux. On a une deuxième étape qui sont par exemple avec les douanes françaises, où on a eu pareil du partage d'informations à partir de vendeurs, souvent de nous vers eux, mais également de eux vers nous, à partir des réseaux, à partir des nouveaux produits. C'est-à-dire qu'on alimente nous aussi la connaissance des autorités publiques sur les nouveaux comportements. Et on essaie également de le faire la même chose sur les autres cas de cybercriminalité, comme les fraudes à carte bancaire, qu'on détecte des schémas un peu nouveaux. On essaie d'alerter notamment l'équipe cyberdélinquance qui est à l'ECLCTIC. Et effectivement, on a aussi cette coopération qui commence à s'institutionnaliser. On a eu ça en France au mois de décembre en 2009 avec la signature d'une charte anti-contrefaçon. Il n'y avait que deux acteurs d'Internet qui ont signé et que deux acteurs français à l'époque. On a signé une charte avec les douanes françaises, pareil, pour officialiser ça. Et véritablement, je pense que l'étape importante, c'était la signature au mois de mai dernier, sous l'égide du commissaire Barnier, d'un MOU au sein de la Commission européenne, et effectivement qui associait que ayant droit et acteurs de l'Internet, mais avec des acteurs internationaux cette fois-ci, puisque à côté de Price Minister, il y avait également eBay ou Amazon. Et c'est vrai qu'on a juste vu un acteur qui manquait dans cette charte, ce sont les autorités publiques, même au plan européen. Et c'est vrai que ça fait partie aujourd'hui, nous, d'une démarche qu'on essaye proactive. Classiquement, les acteurs, ils se séparent en fait des autorités publiques, alors que finalement, c'est un partenaire comme les autres. C'est vrai que nous, on est plutôt tendance à aller voir la police et la gendarmerie en quelque sorte parce que on s'est fait pirater, parce qu'on a été victime d'un délit et autres, alors que finalement on a moins cette démarche proactive d'aller vers elle. Je sais que nous on essaie de pousser quand même en interne d'avoir aussi cette culture d'aller vers les autorités. Et juste pour vous donner un peu un ordre d'idée, aujourd'hui nous on travaille un peu plus au plan international puisqu'on a rejoint un groupe asiatique qui s'appelle Rakuten. On est présent, nous on est en charge de toute la partie Europe et on est présent aux US, on est présent depuis une semaine maintenant au Brésil également. Et en fait une des idées, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous on partage également toutes ces connaissances au plan international, c'est-à-dire que par exemple sur l'initiative de Signal Spam, on sait qu'on essaie de faire bouger également nos homologues japonais sur le sujet, puisqu'il y a aussi les mêmes initiatives au Japon. Rakuten est le fondateur de la JIBA, qui est la Japanese E-Business Association, et donc on essaie également d'impulser cette logique multi-acteurs un peu partout. Et il est clair qu'on continuera à le faire pour les prochains mois et les prochaines années.